Et en fait, l'idée qui m'a fait rentrer au master, c'était en fait de, comme je suis très spécialisé dans la fabrication en trois dimensions, de formes compliquées, des choses comme ça, et que comme aujourd'hui, la simulation, elle arrive à un point où on commence à pouvoir avoir des allers-retours entre la façon de fabriquer et de simuler les formes en 3D, on peut aussi les fabriquer, les programmer, et aussi avoir des rentrants du monde réel vers la 3D. Donc l'idée, c'était de travailler un peu sur toute cette idée-là. Après, au niveau du mémoire, pour l'instant, c'est plutôt tendance Deleuze, on va dire, avec l'idée d'isoler des figures plutôt autour de la mathématique, justement, les figures, pour l'instant, qui sont plus isolées, c'est plutôt des figures autour de des idées de circonvolution, avec notamment la spirale, et des idées d'assemblage de petits éléments rhizomatiques, qui vont servir de base en fait, à la programmation et à des allers-retours en fait, pour le projet qui va suivre.
Ouais. Avec des références bien précises, Smithson, par exemple. Oui,
Après, il y a l'idée aussi de la. Il y a l'idée en fait. L'idée en fait, c'est de trouver des moyens de connecter les choses en chintant. Donc en dépliant des choses par des embranchements ou en faisant des chintes, des connexions. Comme en électronique, c'est des.
Du son.
Ouais, donc l'électronique, en fait, tu fais
chinter. À chinter, c'est. Ouais, on bloque un chemin et on prend un autre chemin.
Tu fais avec des embranchements, tu fais un pont comme ça. Donc c'est l'idée un peu de la spirale. Avec une histoire, avec l'idée qu'en fait finalement l'espace construit aujourd'hui finalement il n'est plus tellement lié à des histoires de fonctions
d'usage
on va dire, car de toute façon oui, l'usage fonction il n'y a qu'en français tu peux voir la différence, mais c'est un peu l'idée de ça et que finalement
pourquoi il n'y a pas
en
français
parce qu'en anglais l'usage c'est dysfonction.
Ouais.
Il y a une espèce d'agglomération. Mais enfin, peu importe, l'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui, finalement, quand on est sur des programmes très compliqués, parce que je travaille sur des énormes projets chez Landon, chez Gautran, c'est que finalement on s'aperçoit que les programmes deviennent de plus en plus indéfinis et croisés. C'est en fait, on nous demande de faire des musées avec une boutique mélangée avec art d'exposition, avec temporaire, avec un design. Oui, voilà, c'est exactement ça. On se retrouve avec des espèces de machins continus et non définis, avec des utilisateurs qui sont de plus en plus indéfinissables aussi, parce qu'ils sont, ils changent de statut, ils changent de fonction en permanence selon qu'ils sont connectés à ça. Enfin, ils changent complètement. On est dans un truc qui glisse comme ça tout le temps, et avec cette idée aussi de se dire que finalement, même dans la demande de faire de l'architecture aujourd'hui, de plus en plus avec les contraintes climatiques et environnementales et plein d'autres, en fait, on se retrouve à devoir gérer des contraintes extérieures qui ne sont plus du tout liées ni à l'usage ni à la forme. Et que finalement, l'idée, c'est si finalement on doit réussir à trouver une problématique à l'architecture aujourd'hui, c'est juste de réunir les gens et de trouver des moyens de leur permettre à la fois de faire un peu ce qu'ils veulent. De l'usage qui circule comme ça et de pouvoir les faire se rencontrer ou pas, donc c'est un peu l'idée aussi du chien, c'est de travailler un peu
les gens, c'est les gens, pas les usagers.
Non, il n'y a plus d'usagers, c'est fini.
Enfin, les anciens usagers,
ouais, enfin, il y en a eu un jour, mais après, du coup, les artistes, tu dis, il y a Smithson, il y a aussi Pierre-Luc, des gens comme ça qui sont intéressants parce que oui, ils font circuler les choses comme ça avec des éléments, te mettre des objets qui se chargent, qui se déchargent. Enfin, je pense qu'il y a un équivalent à trouver en architecture. L'idée que finalement une forme, elle est capable, elle peut recevoir, elle peut donner, elle peut avoir du sens collectif, c'est-à-dire on peut lui voir. Un sens commun en fonction de ce qu'on lui donne comme forme, mais on peut aussi la charger ou la décharger. Je trouve que aujourd'hui, l'architecture, finalement, quand on regarde un exemple flagrant, c'est les espaces de travail, ou n'importe quel espace. D'ailleurs, on allait visiter les laboratoires du Collège de France de chimie. En fait, ça ressemble à n'importe quel bureau de banquier. Déjà, tout le monde travaille dans le même genre d'espace. Les musées sont des bureaux. Il y a une espèce d'interchangeabilité de l'espace. Donc finalement, il n'y a plus de lien, en fait, tout ça, c'est... Je pense que l'enjeu, il est plutôt dans comment...
Mais d'un sens, un standard,
comment...
L'open space, etc.
C'est pas une idée standard, c'est aussi une idée de que ça grossit aussi d'échelle, et que, par exemple, dans les contraintes environnementales, il n'y a plus vraiment une limite claire non plus entre l'intérieur et l'extérieur, il y a un tout, je sais pas, je pense aux radicaux des années 60, où tout s'étale, comme ça, dans une espèce de grand truc continu, on n'est pas loin de ça, en fait.
Radicaux en archi. Utopie architecturale, national, etc. Ou radicaux en design.
Archizoom.
C'est des gens comme Archizoom, on pourrait imaginer aussi des gens, comment ça s'appelle, celui qui a des sphères.
Buckminster Fuller.
Non, pas Buckminster Fuller aussi, mais l'autre, celui qui est en bas de New York, je ne sais jamais son nom.
Christo.
Non,
avec sa tête, tu vois, c'est la transparente, je ne sais plus son nom, mais faire une espèce de truc climatique.
Ouais.
Je pense que l'architecture est en train de glisser un truc qui est plus de l'ordre de l'environnement continu. Quoi. Du coup, l'enjeu, c'est comment on gère la circulation des choses, que ce soit par les machines, mais, tout ce qui est climatisation, ce genre de choses, mais aussi les gens. Enfin.
Les guillemets de Saint-Michel.
Et hier, juste pour faire un peu la transition, parce qu'hier on avait une conversation autour de la question de l'ascendance et des dommages, et on a discuté de cette question avec vous.
Non, moi je ne connaissais pas le terme affordance.
Ouais. Bon, tu vois.
Disons qu'en archi, j'ai l'impression que l'affordance, ça joue à une échelle qui est immédiate. Hein, au niveau de la poignée de porte, la porte. Oui. Après, je ne sais pas si tu passes un gros machin comme un bâtiment de 50 étages, si l'affordance.
Question.
Si, peut-être, je sais pas si c'est peut-être le fondement de la cathédrale ou je sais pas. Enfin,
ouais.
Je sais pas trop à quoi ça. Enfin, c'est pas des notions sur lesquelles j'imagine pouvoir en archi. Après, peut-être dans des petits détails. Quoi. Après, t'as peut-être des latences de forme, mais ça c'est tout. Je pense.
Bon, on va. Démarrer. Donc Catherine, on a fait déjà un peu.
Ouais,
c'est bien un gâteau.
Alors moi, bonjour, et je suis doctorante à Paris 1 où je travaille sur la traduction patrimoniale de maisons préfabriquées de la reconstruction. Donc ça touche à la fois l'histoire du design, l'histoire de l'architecture. Voilà, et là j'interviens à l'ENSI avec Armand Béard et Anne Guillaume sur le studio Phénorama.
Sigrid Mirabeau, je suis chimiste de formation et je m'occupe de tout ce qui est analyse des matériaux du patrimoine pour la compréhension des objets et la recherche de traces du passé et dans une école de restauration en fait.
D'accord. Donc,
ouais. J'encadre aussi des élèves restaurateurs.
Arthur, moi je suis en diplôme à l'ENSI et voilà, donc il y a des connexions entre ce qui se dit ici et mon projet. Donc voilà.
Ça va. Tout le monde me connaît. En François Dubon, responsable de la documentation de l'ENSI. Voilà.
Enchanté.
Catherine Saracou, moi je suis directrice de la recherche et de l'international à l'ENSI.
Baptiste. Pour aller plus loin, je l'ai déjà présenté, je suis jeune architecte du coup, et j'ai intégré le poste diplôme cette année aussi. Et sur mon mémoire, je travaille sur aussi transmission mémorielle à travers les objets techniques. Donc, exactement. Ça va me faire perdre son
style.
Tu as quand même dit que.
Pas encore.
Tu as fait d'un projet.
Non, je n'ai pas parlé.
Il y a du suspense.
Il y a un suspense, mais qui va être vite
soulevé.
Voilà, et Armand Béard, donc, qui s'occupe de Phénorama, donc, du studio de création, mais aussi de mettre en place autour de ce studio une réflexion entre guillemets raisonnée, en accueillant chaque semestre un binôme chercheur-artiste, en l'occurrence ce semestre.
Chercheur. Pré-chercheur.
En fait, la recherche.
Oui, oui, oui.
Donc, Caroline, ici présente, et Anne, donc Guillaume, qui est artiste. Et donc, la session précédente, en fait, on avait invité vous étiez pour la plupart ici, on avait invité Girolamo, qui fait aussi partie de ce groupe et qui malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, est hospitalisé, donc c'est voilà, compliqué pour lui aujourd'hui d'être là. On avait abordé la question de... la question de la gestualité, la question de, on va dire, de l'injonction des objets dans la société, comment finalement les objets techniques participent de l'organisation de la société. Hein. Il était beaucoup, beaucoup sur cet aspect-là. Et donc là, il nous paraissait aussi intéressant de poursuivre, toujours sur cette question des usages, de la possibilité de formes, en tout cas de la production de formes qui vont porter ces usages, la manière dont elles peuvent être transmises par les objets. Et il nous semblait aussi intéressant d'inviter, donc, pour le coup, Anne, puisqu'elle est déjà dans ce drama, à présenter son travail. Donc cette question est assez présente et abordée souvent, pas tout le temps, sous l'angle de l'archéologie. Mais je fais attention.
Alors, du coup, je vais vous faire une présentation de mes recherches et de mes objets, des travaux artistiques, un petit peu à l'image de cette constellation-là. Peut-être pour revenir un tout petit peu à l'origine, question de l'origine autant que celle de la transmission. Je suis donc fille d'archéologue et dans ma maison d'enfance, située en Lorraine, il y a des objets. Des centaines d'objets, donc ça va de 400 squelettes mérovingiens, parce que mon père est médiéviste, et aussi il travaillait à l'inventaire du patrimoine à Nancy, donc il a en même temps cherché, collecté beaucoup d'objets techniques du 19e, qui étaient en rapport avec la Lorraine, donc les champs, des objets techniques ruraux, donc il y a un vrai petit musée avec plein d'objets en bois, avec des morceaux de choses qui sont un peu partout, comme ça, et très très anciens, dont personne ne veut, parce que voilà. Donc j'en avais parlé avec Girolamo pour le musée des arts et métiers. Il m'a dit là, j'en ai marre de tous ces passionnés qui collectent des objets chez eux puis qui une fois disparus, il y a leurs petits enfants qui veulent absolument tout à ces musées là. Et puis aussi une grosse collection en fait d'objets préhistoriques, mobilier archéologique paléolithique, parce que ma mère était préhistorienne, et ensuite une énorme collection d'objets minéraux fossiles. Donc du coup, on a les objets techniques, les objets archéologiques, les choses très figuratives, des objets techniques, des objets visuels, des objets artistiques, tout ça en même temps. Moi, je grandis là-dedans et je crois qu'en fait, c'est très simple, je suis un peu comme un livre ouvert. C'est tellement simple, c'est que voilà, j'étais obligée d'amender, de tout prendre en compte plutôt que d'avoir à choisir, parce qu'on ne peut pas choisir entre la passion de son père, la passion de sa mère, chose qui apparemment était quand même vraiment très très différente entre l'Antiquité et la préhistoire. Donc du coup, je me suis tournée vers Aby Warburg. C'est-à-dire qu'il est bien pratique, cet Aby Warburg, parce qu'il aime tout et il prend tout dans son ensemble. Donc j'avais fait une maîtrise sur Aby Warburg, sur la question de survivance. Alors évidemment, dans la question de survivance, il y a la transmission. Et Aby Warburg, en fait, m'a aidée en fait, donc à prendre... apprendre tout dans son ensemble, à déhiérarchiser aussi les informations, ce qui n'est pas si évident que ça quand on est jeune artiste, parce que si on ne fait pas de la sculpture, si on ne fait pas de la peinture, si on ne fait pas de l'installation ou de la vidéo, des choses aussi, en tout cas des choses qui entrent dans la catégorie art, mais justement quand on, comme moi, je me cherche à mettre en lien et à créer des correspondances entre différentes disciplines, eh bien des fois, ça coince un peu. Donc, en fait, Aby Warburg m'a permis d'utiliser sa méthodologie, en fait, celle de prendre en compte les choses pour ce qu'elles sont, mais surtout pour le lien qu'elles créent entre elles. Donc, du coup, ce site-là, qui s'appelle Never Ending Object, il a été conçu, en tout cas, son squelette, par un ami qui s'appelle Yann Le Guenec, qui est un artiste breton, comme son nom l'indique. Et qui du coup m'a permis en fait de pouvoir collecter tout ce que je ramassais, c'est-à-dire par exemple là on voit objets d'interprétation, réunions interdisciplinaires, les expositions néo, et puis d'autres catégories à venir. En fait, ce qui est intéressant dans ce cycle-là, c'est que je pensais à la base donc entrer les informations qui sont aussi bien les objets que je produis que les expositions que j'ai commissariées. que j'ai organisé.
Curatorier.
Que les réunions interdisciplinaires, donc, en invitant des archéologues, des anthropologues et des artistes. Donc voilà, donc, je voulais en fait un endroit où, où tout ce qui se passait autour de cette question, qui est donc l'objet, parce que je me suis rendu compte que tout ce qui, en tout cas le dénominateur commun qu'on pouvait avoir avec tous ces professionnels de l'objet, bien évidemment c'était l'objet. Sauf que si j'ai organisé des expositions, c'était pour soumettre en fait des objets d'artistes, des objets d'art, à des archéologues qui a priori n'en ont jamais dans les mains, parce que l'archéologue, dès qu'il trouve un objet qu'il ne connaît pas, préfère cocher la case art plutôt que d'avoir une mauvaise interprétation. Plus ils sont jeunes, plus ils sont comme ça. J'en ai reçu plein dans mon atelier. J'avais l'atelier à la Cité des Arts à Paris pendant un an. C'est là que j'organisais ces rencontres. Et donc je pensais avec ce site qu'en appuyant sur entrée, et il allait me dire oui, à 30% vous avez raison, ou alors à 0% vous avez tort, ou à 100% vous avez tort. Et en fait, ce qui était très intéressant, et c'est à partir de là que je me suis intéressée à l'histoire aussi de la terminologie, c'est-à-dire que pour mettre des choses en lien, il faut trouver des mots-clés, des mots accès, je les appelle. Et donc, en fait, c'est un site, donc, dès que je rentre une information, bam, je rentre dans le squelette de la chose, et puis j'y ai rentré, en fait, plein de mots-clés. Donc, ça peut être comme, je sais pas, j'ai une petite liste vite fait, objet discours, objet fait, objet fermé, objet illusoire, objet irrationnel, objet lien, objet magique, objet mimétique, objet miracle, objet multiple, objet organe, objet parenthèse, objet frontière. Donc, ce sont des termes qui sont utilisés aussi bien chez Baudrillard que chez Roger Caillois, que chez les anthropologues de l'art, chez Warburg. Donc, tout ça, c'est de l'emprunt. De toute façon, on n'a pas le droit d'emprunter. C'est normal, je pense. Et donc, du coup, voilà, ça me permet, en fait, de pouvoir mettre ces choses en lien. Donc, si on rentre à l'intérieur de ça, donc on voit, par exemple, si je vais directement sur Abby Warburg, pour revenir un petit peu à l'origine des choses, donc Abby Warburg avait été en Arizona suivre la figure du serpent, c'était son grand projet. En tout cas, suivre le rituel du serpent en Arizona. Donc je suis allée sur ses traces et j'ai fait une vidéo qui est assez chiante, on peut quand même le dire. Pour ça, je ne vous la montrerai pas, mais ce qui était très intéressant pour moi, c'était de suivre Abby Warburg et son fantôme en Arizona. C'est-à-dire que là, on le voit assis contre un mur avec un hopi. Donc j'ai essayé de retrouver ces murs, voilà, dans cette contrée très, très très lointaine. Donc j'arrive juste sur Warburg pour pouvoir vous montrer que ces mots-clés sont ici, ils se retrouvent là, effectivement. On les voit bien, parce que je vois pas grand-chose ici. Objet géographique, genre mythologique, genre portrait, objet discours, objet magique, objet multiple, rencontre, retour, ruine. Donc voilà, ce sont des mots qui sont en général très, très courants, voilà, qui me permettent de définir en tout cas tous ces objets. Alors peut-être je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit pour rentrer un petit peu dans Phénorama, parce que on a comme mission, je dirais aussi, de trouver avec les étudiants ou avec le séminaire chacune des choses à voilà, de la nourriture, quoi, en fait. Et donc j'écris ce court texte autour de cette notion d'objet qui serait intercatégorique, qui filerait le temps, qui se frotterait à des théories dites par ceux-là ou les autres, et puis qui, du coup, au fur et à mesure du texte, en fait, prendraient des formes différentes. Donc, c'est un objet imaginaire qui ne sera pas réalisé. Donc, l'objet texte, voilà, joli. Alors, donc, je l'appelle Histoire de O. Donc, O est un objet unique, un objet indispensable, un objet irremplaçable, un objet muet. Un objet fétiche. O est un objet qui saute d'époque en époque, de discipline en discipline. Il se frotte à l'histoire des objets et à leur définition. Il sillonne l'histoire de l'art et l'évolution des différentes théories sur l'objet en général. O est composé de choses. De quoi est-il fait? O est cette chose qu'Aristote a trouvée et qui n'avait pas de forme reconnaissable. Il est nécessaire de prêter une attention égale à tous les indices qui le constituent afin de le définir, selon la méthode de la multiplicité des points de vue. Il s'agira pour l'imaginer de le voir à l'aune de tous les concepts sur l'objet, de sa matérialité à son concept, à sa poésie, son usage. O traverse l'histoire et accueille tous les récits. Les objets, tout comme les individus, ont une vie sociale. Le récit témoigne d'une relation orale, ici, qui s'écrit entre individus engagés et une situation de communication. O ne répond pas aux critères de l'esthétique classique. ou peut-être comparer un objet d'art occidental comme un objet d'usage, ou encore un objet technique, mais aussi un objet provenant d'un pays lointain. O est l'objet qui invente une théorie pouvant s'appliquer à tous les objets. O exclut la notion de beauté, car si pour être beau, il faut nier son origine, son créateur, sa raison d'être, O est toutes les choses. Il fait histoire. Il se situe dans une généalogie non linéaire. Il est de ceux qui peuvent devenir quelque chose à partir de n'importe quoi. Son nom est un indice du langage qui n'entre pas dans la pensée classificatoire établie, car si les mots eux-mêmes désignent des genres, O serait qu'un mot. O soutient donc que l'esthétique de la classification ne saurait être la base d'une théorie générale appliquée aux objets, car sur lui, elle n'a aucune prise. Si les objets d'usage ont pour fonction de stabiliser la vie humaine, O s'use. La propriété de s'user fait de lui un objet temporel, marqué, chargé. Il possède une force, un pouvoir de fascination, parce que cet objet est un indicateur de temps. O est alors un objet ancien qui se donne ainsi comme mythe d'origine. O est dans un autre mouvement destiné à survivre au va-et-vient des générations, car elle perdure à travers le temps. Sa permanence l'emmène vers une immortalité potentielle. O se pense à l'intérieur d'un réseau de pensées et d'actions, subissant des mutations sans cesse. Il abolit toute distinction entre objet d'usage, objet d'art, objet à contempler, objet à manipuler. Cette dichotomie entre l'art et la fonction n'est pas valable pour lui. O dépasse son apparence formelle, à l'instar des individus. Il peut accueillir une biographie, voire une identité. Ce qui le rend irremplaçable n'est pas sa forme physique, mais son identité sociale. L'intention du créateur se voit être dépassée par l'autonomie de O, qui désormais possède lui-même une intentionnalité propre. Une force animée réside en lui. Le fétiche O devient donc un maillon de la chaîne qui relie les membres d'une société. Il permet le passage vers un monde matériel qui est considéré comme un monde vivant, avec lequel on peut avoir des relations sociales. Toute vie possède une base matérielle. O est parent avec la commode d'un musée des arts décoratifs, car comme elle, il s'expose. Comment exposer O ? Au fur et à mesure des modes d'accrochage, il fut exposé sur un piédestal, à un mur, associé à des objets exotiques ou à des objets techniques dans un musée ethnographique, accompagné d'une vidéo retraçant son histoire. Il fut emprunté par un artiste qui l'exposera dans une installation in situ. O s'envisage par son environnement, son contexte de production, sa circulation dans le temps. Il est le chaînon manquant, il crée la trame cognitive commune à un tableau flamand, un fétiche d'Hugo et un tapis persan. Donc ça, c'est l'histoire de O, qui est cet objet qui n'a pas de forme, mais qui voilà, se frotte à toutes ces histoires. Donc là, j'ai cité du Hannah Arendt, tous les grands critiques, historien d'art, Alfred Gell pour l'anthropologie, Abby Warburg, enfin, et prêt pour le design, Simondon aussi, j'ai cité chose de Simondon. Mais pour les grands noms du design, je ne connais pas encore très bien. Alors, donc lui, du coup, cet objet a toutes les caractéristiques de tous les objets. Bah, je suis bien contente de tomber sur lui. Donc, en fait, cette présentation, c'est jamais la même, puisque du coup, il y a quand même ce côté très aléatoire des mots-clés, même si on les retrouve très souvent. Donc, ces objets, ils sont au nombre de 12, réalisés quasiment à l'identique. Ils ont pour qualité d'avoir toutes les propriétés. C'est-à-dire qu'ils sont numériques, mécaniques, artistiques, artisanales et designiques. En tout cas, ce qui est intéressant avec cet objet aussi, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que moi, je travaille que quand je suis en résidence artistique. Du coup, j'ai une bourse de production et je suis dans un lieu. Un atelier, en général, c'est très très grands ateliers qui font très très peur, puisque moi je travaille pas du tout, j'ai pas du tout une pratique d'atelier, puisque je travaille dans les ateliers des artisans ou des entreprises, des usines. Donc souvent cet atelier est très très impressionnant. Et il me rappelle que la pratique artistique a vraiment changé aussi depuis la pratique d'atelier il y a très longtemps. Donc il faut peut-être revoir les résidences françaises, ça c'est un autre sujet. Bref, donc c'est ces objets, au nombre de 12. Ils ont été faits de manière à ce que chacun soit envoyé dans un musée différent, afin que le contexte du musée leur donne chacun leur définition, donc leur couleur, je dirais. Donc là, pour l'instant, il y en a un qui est exposé au musée des Beaux-Arts de Rennes, à côté d'un Odilon Redon. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça vient de tomber, j'adore Odilon Redon. Donc du coup, ça lui donne un côté aussi symboliste, qui n'est pas... Ce qui n'est pas faux. Il y en a un qui est parti avec le FRAC Toulouse et qui donc est vraiment associé à une collection donc achetée par FRAC.
Fonds régional d'art contemporain.
Fonds régional d'art contemporain.
Le ministère de la Culture.
Absolument. Il y en a qui va partir à Tel Aviv dans un musée archéologique pur et dur. Et puis d'autres qui seront certainement un, en tout cas, qui sera peut-être exposé au musée des arts et métiers là en février. Donc chacun. Donc en fait, c'est comme si ils étaient multiples, donc ils sont réellement multiples. Et je pense, et ça c'est un peu inconsciemment aussi, qu'il y avait cette idée, un peu comme les sept crânes de cristal, un jour on aura envie de retrouver ces objets. Et du coup, celui qui retrouvera ces objets sera obligé d'aller se frotter à des professionnels des techniques, des archéologues, des gens de l'art, enfin voilà. Donc en fait, tous ces objets sont souvent là pour, comme médiateurs, essayer justement de trouver un dialogue avec ceux qui s'en occupent. Donc j'ai un rapport un peu plus anthropologue qu'archéologue, voire artistique, même artiste à ces objets, en général. On essaye, on voit. Ok. Par exemple, ça c'était, donc là on passe dans une... C'était une exposition que j'ai organisée à la Biennale de Belleville, invitée par le FRAC Île-de-France. Ce qui était intéressant de cette expo, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas l'image avec, Cavane Cabinet ou les objets du déluge. En fait, ce qui était vraiment marrant, c'est que j'ai invité des objets d'artistes qui étaient un petit peu ambigus, c'est-à-dire qu'ils avaient souvent comme qualité d'être plutôt techniques ou archéologiques. Donc c'était des œuvres d'art, parce que l'artiste, il donnait cette intention-là. Et donc je l'avais soumis à une archéologue parisienne qui travaille au Centre Régional Archéologique, où sera, rue à Pelletier, là. Donc je lui avais mis dans les mains tous ces objets qui étaient vraiment manipulables aussi, alors qu'a priori, évidemment, les œuvres d'art se manipulent toujours pas franchement. Donc elle avait dans ses mains des œuvres d'art et donc elle les a interprétées, mais sauf qu'elle les a interprétées avec son objectivité, parce que l'archéologue se doit d'être objectif. Mais je lui ai demandé de faire un petit effort et de faire participer plus sa subjectivité que son objectivité. Donc ce qui était intéressant, c'est que ça a donné lieu à des... en tout cas, entre l'intention de l'artiste et sa définition et la sienne, il y avait évidemment un monde, quoi. Évidemment, puisque... Donc ça, c'était pour une exposition organisée. Objet scientifique, par exemple. Ben, voilà. Donc, cet objet... Je vais prendre celui d'avant, parce que c'est les mêmes. Donc, en fait, ça, c'est un projet qui est en ce moment exposé au musée des Beaux-Arts de Rennes. C'est le centre d'art qui s'appelle 40 mètres cubes, qui est un centre d'art vraiment chouette à Rennes, qui m'a invité à faire une exposition et qui m'a envoyé au musée d'archéo et des Beaux-Arts. Et je me suis dit, voilà, c'est encore très difficile de travailler avec les conservatrices, parce que souvent, les conservateurs sont quand même des gens qui conservent et qui n'aiment pas trop qu'on bouge leur collection. Et là, je suis tombée sur Anne Dary, qui était l'ancienne directrice du FRAC, je ne sais pas si c'est Mulhouse, là-bas, Alsace. Franche-Comté. Et en fait, elle venait d'arriver dans le musée, donc j'ai pu faire absolument tout ce que je voulais, et on a entamé toutes les deux un dialogue. Et donc, je lui parlais de mon intérêt sur l'interprétation, sur la multiplicité des points de vue et d'interprétation autour d'un même objet. Et elle m'a dit, ben moi, je suis venue au musée des Beaux-Arts aussi pour cette collection d'Enabis et d'un tableau précis de Paul Sérusier, qui est donc celui-ci, et qui s'appelle le cylindre d'or, le cylindre d'or. Et donc, c'est un paysage qu'on voit avec, bam, en plein milieu du ciel, un cylindre. Et ce qui l'intéresse, elle, dans ce cylindre d'or, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc certains ont dit que c'était un signe franc-maçonnique, d'autres ont dit que c'était du pur abstractionnisme, le début de l'abstractionnisme, d'autres ont dit que c'était un faisceau lumineux ou des extraterrestres. Donc ce qui était intéressant à partir de cet objet, c'est ça, c'est que... Est-ce que ce sont tape là, on retrouve ouais, on retrouve. Donc en fait, à partir de cet objet, c'est ici qu'ils sont tous, j'ai fait des cylindres d'or, plein, avec à chaque fois des interprétations différentes. Comme voilà, là je vois en arrière. Donc voilà. Et ce qui était intéressant avec cette exposition, c'est que j'ai pu donc rentrer dans le musée, les réserves archéologiques, et en fait faire un film, à savoir en fait changer d'interprétation tous les objets qui sont exposés. C'était en fait le musée archéo, en tout cas la partie archéo, c'est art égyptien, donc c'est peut-être aussi pour ça que entre la Bretagne et l'Égypte, c'est pas non plus pas des objets qui ont été trouvés sur place. Donc j'ai pu en fait déplacer les vitrines, déplacer des objets, changer leur interprétation, les cartels. Et donc, je sais pas si je monte le film, Armand. Il dure 7 minutes. Je sais pas si, en revanche, mince, il y a pas. Ah, t'as du feu ? Waouh ! Wow. Ça me fait tout le temps ça, je sais pas pourquoi. Ah. Donc c'est un peu comme une petite société secrète comme ça qui la nuit se réunirait et puis écrirait l'histoire selon son bon vouloir.